RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet à la une. Arthur, comment fête-t-on Pâques sur le continent ? Deux illustrations radicalement différentes dans votre journal.
En Côte d'Ivoire d'abord, où l'heure est à la fête et aux traditions, et puis dans l'est de la RDC, ensuite à Bukavu, où les habitants composent avec l'occupation du M23. Un député de la majorité au Sénégal demande la fin des libérations sous caution dans les affaires de détournement de fonds publics. Le débat s'intensifie dans le pays après les interpellations dans l'affaire du fonds Covid. Au sommet aussi, la note de la dette du Togo relevée par une agence de notation américaine, les réactions au verdict dans le procès du complot contre la sûreté de l'État en Tunisie, et puis notre dossier ce matin consacré aux grossesses précoces, comment y mettre fin. Illustration au Rwanda et au Togo à la fin de ce journal.
Le son des mains qui tapent sur les tambours et des fidèles qui dansent en tenue traditionnelle. En Côte d'Ivoire, les communautés à Tchan célèbrent Pâques.
Pâques Nanoué, Pâques sous les bananiers pour célébrer l'identité de ce peuple autochtone. Dans le village de Kouté, à Yopougon, c'est l'occasion pour eux de dévoiler tout leur patrimoine, mais aussi de transmettre ces traditions aux plus jeunes. Reportage en immersion, Abdoulaziz Diallo.
Le corps recouvert de poudre blanche, vêtu de feuilles de palmier, sabre en main et petit miroir accroché à la taille, Yaba Hans entre en scène. Le jeune homme de 16 ans s'élance au rythme des percussions et du tambour parleur sacré des Achans. Il participe au concours de danse guerrière.
C'est en regardant les anciens que nous avons pu apprendre cette danse-là. Nous sommes encore enfants, nous ne connaissons rien de la culture. Mais lorsque nous apprenons cette danse-là, nous formons des catégories. Nos aînés nous montrent ce qu'ils ont fait dans le passé jusqu'à ce que nous aussi on vienne au pouvoir d'aimer.
Chaque pas est un geste. À travers le festival Pakinamoué, ce peuple enraciné autour de la lagune d'Abidjan veut faire revivre ses traditions. Docteur Aloya Mobio, commissaire général de l'événement, nous explique.
L'urbanisation galopante est venue engloutir les villages Achan. Pour maintenir cette tradition, il faut qu'on fasse venir nos enfants, nos jeunes frères, on leur présente la tradition, on leur transmet pour ne pas qu'ils la perdent.
Pas d'école pour cela, rappelle Apiti Apiti Clément, chef du village de Kouté, soutien du festival depuis 5 éditions.
C'est un support pour nous, pour pérenniser notre culture. Si nous ne prenons garde, nos enfants vont laisser ses valeurs pour d'autres valeurs.
Dans le village de Kouté, Pâques ne célèbre pas seulement la résurrection du Christ, mais aussi celle d'une identité culturelle bien vivante. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Voilà, Pâques célébrée en grande pompe en Côte d'Ivoire. Dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est dans un contexte particulier qu'on fête ce jour saint à Bukavu, ville sous contrôle de l'AFC M23. Malgré les difficultés de la vie quotidienne, les chrétiens tentent tout de même de célébrer cette journée. Le récit de Sabine Mellet.
Mère de trois enfants, Anuarit a acheté quelques bouteilles de jus d'ananas et des beignets pour ses enfants. Même si les temps sont durs, pour elle, Pâques doit être fêtée.
C'est une fête très importante, mais compte tenu de la situation, nous allons manger ce que nous aurons trouvé. Auparavant, nous avions l'habitude d'organiser une grande fête avec des amis, la famille et des membres de notre église et de participer à la veillée pascale jusqu'au matin. Mais pour le moment, c'est difficile de les inviter à cause de la guerre et nous ne pouvons plus passer la nuit à l'église en raison de l'insécurité.
Depuis la prise de Bukavu par la FC M23, les banques sont fermées, ce qui complique la vie de la famille de Dieudonné, père de 7 enfants.
Nous n'avons plus d'argent. Aucune banque ne fonctionne. Il n'y a presque plus de travail et même les commerces ne tournent plus normalement. S'ils avaient au moins la capacité de rouvrir les banques.
Malgré toutes ces contraintes, le pasteur Élisée Boula, lui, veut profiter de la veillée pour ses 10 petits-enfants.
Je leur apporte des petites surprises comme des bonbons, des biscuits et même des ballons gonflables. Ils sont contents car les tout-petits ne savent rien de notre galère. Nous célébrons Pâques, mais c'est un peu comme si elle n'était pas là. J'espère que nous pourrons fêter normalement plus tard.
D'autres Bukaviens ont préféré passer ces moments de recueillement en méditant sur la victoire de la vie plutôt que sur la mort.
Et pendant ce temps, à Kinshasa, le cardinal Ambongo parle de désespoir et de morosité générale en ce jour pascal. Dans son message hier, l'archevêque de Kinshasa a appelé les Congolais à accueillir l'initiative dite du Pacte social pour la paix et du bien vivre ensemble de la CENCO et de l'ECC.
RFI.
Au Sénégal, les personnes arrêtées pour détournement de fonds publics doivent-elles être libérées sous caution ?
Non, répond un député qui veut mettre fin à ce régime juridique. Un débat relancé depuis quelques jours après les interpellations dans l'affaire des fonds Covid détournés. Plusieurs personnes ont été libérées après avoir justement payé une caution. Gwendal Lavina, cela suscite la colère du député Pastef Alioune Nado qui appelle à changer la loi.
Le député, par ailleurs ancien procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, estime en effet que le mandat de dépôt devrait être systématique dans ce type de dossier. Il ne faut plus se focaliser sur le remboursement des sommes détournées, affirme Alioune Dao sur la radio RFM, mais privilégier la détention des mises en cause tout en procédant à la saisie systématique de leurs comptes et biens. Selon le député du PASTEF, il est nécessaire de changer les textes actuels qu'il estime trop permissifs face à des pratiques qui éloignent durablement les politiques et les citoyens, au risque aussi de laisser penser qu'il y a une justice à deux vitesses favorisant les plus aisés, conclut-il. Pour son collègue à l'Assemblée, Amadouba, il est important que la société civile s'empare de la question des détournements de deniers publics, mais insiste pour que cela soit fait en respectant la présomption d'innocence. Un avocat rappelle d'ailleurs que verser une caution ne signifie pas reconnaître les faits, que ce mécanisme garantit que les mises en cause se représentent devant la justice et qu'il existe dans de nombreux délits de droit commun. Gwendal Lavina, Dakar. RFI.
En bref, au Nigeria, au moins 56 morts dans des attaques dans l'état de Benue. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Au début du mois, dans l'état voisin du plateau, plus de 100 personnes avaient été tuées. Là aussi, dans des attaques d'hommes armés.
RFI, 6h37 en temps universel. Une croissance en hausse, des investissements dans les infrastructures et une inflation contenue. L'économie togolaise au beau fixe.
C'est S&P qui le dit. L'agence de notation américaine a relevé hier la note de la dette souveraine du pays d'Afrique de l'Ouest. Elle passe de B à B+, assortie d'une perspective stable. C'est la même note que le Rwanda, par exemple. Alexis Bédu, comment expliquer ces bons résultats ?
C'est le port de Lomé qui est aujourd'hui l'atout économique majeur du pays. Un carrefour logistique important, estime l'agence de notation américaine. Les travaux entrepris dans les années 2010 payent. Le trafic dans ce port en eau profonde a doublé en 8 ans. Il y est passé l'année dernière plus de 30 millions de tonnes de marchandises. Lomé est devenu le point de passage privilégié pour l'import-export des pays de l'Alliance des États du Sahel notamment. La croissance togolaise est estimée à 6% pour les 3 prochaines années par S&P. Les exportations de matières premières comme le coton et le phosphate ne se portent pas trop mal et la diversification de l'économie serait en bonne voie selon l'agence américaine qui salue les investissements dans les infrastructures et la volonté de développer les activités manufacturières. Mais des vulnérabilités persistent. Première d'entre elles, la pauvreté de la population. Le PIB par habitant s'établit à 1 100 $. Et puis il y a les risques politiques et sécuritaires dans le nord du pays. Ils sont de nature à décourager les investissements, explique l'agence de notation.
Alexis Bédu du service économie de RFI. Entre 4 et 66 ans de prison pour les prévenus dans le procès du complot contre la sûreté de l'État en Tunisie. Le verdict est tombé hier dans ce procès très médiatique. Et ce matin, il fait réagir, notamment au sein de la société civile et des associations de défense des droits de l'homme. Lilia Blaise, pour beaucoup, il s'agit d'une décision politique et même d'une parodie de justice.
Samedi, les avocats de la défense dans l'affaire du complot, plus de 200, accusent encore le coup du verdict prononcé à l'aube. Maître Samir Dilou, qui avait déjà dénoncé les conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès la veille, exprime son effarement face à ce jugement expéditif.
Mais ce qui est le plus choquant, c'est pas la sévérité du verdict, mais plutôt qu'il n'y a pas eu procès. Tout n'a duré que 30 secondes. Donc je crois que c'est pas trop de dire c'est inédit, c'est du jamais vu.
Les peines les plus lourdes concernent ceux considérés comme le cerveau du complot, l'homme d'affaires Kamel El Tayef, condamné à 66 ans de prison, le militant pro-démocratie Hayem Turki, condamné à 48 ans, et l'ancien ministre de la Justice et député, membre du parti islamiste Ennahda, Nourdine Bahiri, qui écope de 43 ans de réclusion. Pour l'avocate Hajer Chebbi, il faut se mobiliser pour l'appel du jugement.
L'espoir, il est très minime, voire inexistant, mais il est là. Tant qu'il est là, tant qu'on peut le faire, on va se battre jusqu'au bout. On a été honorés de pouvoir les représenter en tant qu'avocats et on continuera à le faire tant qu'ils seront en prison, injustement.
Tous les accusés en liberté ont été également condamnés et pour ceux en Tunisie, ils risquent l'arrestation en fonction de la décision en appel. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
C'est un phénomène qui touche chaque année une jeune femme sur cinq sur le continent, d'après le Centre pour les droits reproductifs. Dans notre dossier, ce matin, Arthur, on se penche sur les grossesses adolescentes.
Comment prévenir ces grossesses précoces? Comment mieux les anticiper? Comment mieux accompagner les adolescentes? Au Rwanda, un projet de loi est à l'étude pour permettre aux jeunes filles d'acheter leur contraception dès l'âge de 15 ans, et ce, sans avoir besoin du consentement d'un adulte tuteur. La prévention, l'organisation Health Development Initiative y travaille depuis de nombreuses années. Notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillot, a assisté à une consultation. Reportage.
Espace polyvalent avec des programmes d'employabilité et d'entrepreneuriat, les centres de jeunesse offrent pour certains des services de santé. Aimable Ruigamba, coordinateur à Moussanze, est régulièrement confrontée aux difficultés des grossesses précoces.
Parfois, elles nous disent qu'elles sont mises à l'écart par leur famille. Elles ne sont pas dans la capacité de s'occuper de leur enfant. Elles abandonnent souvent l'école à cause de la grossesse et de la pauvreté.
Pendant la réunion, l'ONG HDI forme les coordinateurs sur les questions de santé sexuelle et reproductive et les risques liés aux grossesses précoces. Diana Keza, conseillère de l'organisation.
Les coordinateurs sont au quotidien avec des adolescents hors du système scolaire. Et la jeunesse va plus facilement dans les centres de jeunesse que de santé par peur d'être stigmatisée. Aller dans un centre de jeunesse n'éveille pas les soupçons.
L'organisation participe aux discussions parlementaire sur le projet de loi pour abaisser à 15 ans l'accès indépendant à une contraception. Denis Teta est la responsable politique et plaidoyer.
L'année dernière, plus de 22 000 filles entre 15 et 19 ans ont accouché et on voit que les chiffres augmentent. L'activité sexuelle est de plus en plus précoce. Pour freiner cette tendance, il faudrait fournir de l'information et des conseils, que les ados puissent prendre des décisions informées sur leur santé.
Une proposition de loi similaire avait déjà été étudiée en 2022 à l'initiative de députés, mais rejetée pour des raisons culturelles et religieuses. Cette fois-ci, le projet est porté et défendu par le ministère de la Santé. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Voilà les associations qui se mobilisent donc au Rwanda. Le Togo n'échappe pas lui non plus à ce phénomène de grossesse précoce, avec une affaire emblématique il y a quelques semaines. Souvenez-vous, on vous en a parlé sur RFI. Plusieurs élèves ont été renvoyés de leur collège après avoir mis enceinte leurs camarades de classe. L'association togolaise pour le bien-être familial se bat pour faire de la prévention, et d'après Hervé Wanyini, l'un de ses responsables, ses efforts commencent à porter leurs fruits.
Si nous prenons de l'année scolaire de 2020 à 2021, nous avons enregistré 2407 grossesses, et il faut retenir pour la dernière année de 2023 à 2024, nous avons obtenu 1883 grossesses. C'est dire que le phénomène baisse, mais il faut avouer qu'une seule grossesse en milieu scolaire est une grossesse de trop. Nous renforçons les capacités des acteurs en charge de l'éducation des jeunes, à savoir les enseignants, les leaders religieux, les parents et les jeunes eux-mêmes. Lorsque dans cette chaîne, un maillon ne joue pas son rôle, vous convenez avec moi qu'il y aura des répercussions sur le jeune. Voilà. C'est des besoins individuels de chaque jeune. Et c'est pourquoi nous exhortons les parents à jouer leur rôle, à subvenir aux besoins élémentaires et vitaux de l'enfant, afin d'éviter que ces jeunes deviennent des vulnérables.
Hervé Wanyini, le chef des programmes jeunesse à l'association togolaise pour le bien-être familial. Au micro RFI de Peter Sassou-Dogbé, dossier complet sur les grossesses précoces à retrouver sur RFI.fr.
Et c'était le journal d'Arthur Ponchelet.